Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sans toi, mais je dansais avec Dieu.
C'était La Bronze, on danse par en dedans.
Actualité culturelle, je vous en ai glissé un mot hier à propos de ce film qui s'en va à Cannes, Le sujet de Patrick Bouchard à Cannes. On en parle dans Le Quotidien sous la plume d'Anne-Marie Gravel. Patrick Bouchard peine encore à le croire. Son court-métrage d'animation, Le Sujet, a été sélectionné pour la 50e quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le Chicoutimien d'origine sera le seul représentant du Québec à prendre part au festival cette année. Le film d'animation de 10 minutes, le plus personnel du cinéaste, sera présenté dans le cadre de la section parallèle du prestigieux Festival de Cannes, qui se tiendra du 8 au 19 mai. Le court-métrage figure parmi les 10 sélectionnés sur quelque 700 propositions soumises. J'ai appris la nouvelle il y a quelques jours, je ne m'en attendais pas du tout. Maintenant que c'est annoncé à tout le monde, je réalise ce qui s'en vient pour moi. C'est excitant, je suis très heureux, affirme celui qui enseigne le cinéma d'animation à l'UQAC. Il s'agit d'une première présence à Cannes pour Patrick Bouchard qui cumule 5 courts-métrages d'animation, tous produits par l'ONF. C'est le genre de choses qu'on espère toujours. On fait des films pour qu'ils soient vus, mais c'est surtout un tremplin pour le film qui est en début de carrière, estime celui qui a notamment remporté le Jutra du meilleur court-métrage d'animation à 3 reprises, Les Ramoneurs cérébraux en 2002, Dehors novembre en 2005 et Bid l'eau en 2012. Le sujet a été projeté pour une première fois au rendez-vous Québec Cinéma en février dernier. Le public de Regard a ensuite pu le découvrir en mars. Le passage du court-métrage à Cannes permet au cinéaste d'espérer qu'il aura une longue vie en festival. Ça permettra d'attirer l'attention des programmateurs de festivals. Une présence à Cannes, ça aide à tous les niveaux. Il y a toute une industrie là-bas. Une présence à la quinzaine des réalisateurs, ça implique beaucoup de choses. C'est plus important que je ne peux l'imaginer. D'autant plus qu'il y a toujours un impact à tout. On ne revient jamais vain d'un festival, assure-t-il. Patrick Bouchard compte profiter pleinement de l'expérience qui lui est offerte. J'y serai pendant 8 jours. Mon film sera projeté 2 fois. Le sujet met en scène un animateur qui fait face à son alter ego, sous la forme d'un moulage de son propre corps. L'animateur ouvre son corps et en sort des objets liés à sa vie, jusqu'à ce qu'il parvienne à identifier le poids dont il veut se départir. Le cinéaste se livre, il se dévoile complètement dans le court-métrage dont il assume également la musique. Patrick Bouchard affirme que le sujet est pour le moins particulier. Il ignorait complètement comment il serait reçu. « Je suis heureux de la réception, c'est très gratifiant. L'ONF a accepté de produire le film, même s'il s'agit d'une démarche particulière. Ma vraie fierté, c'est qu'un film basé sur un concept risqué soit reconnu. » Ça démontre que ce genre de cinéma peut se faire. Il y a une ouverture. Après son passage à Cannes, le sujet, donc le titre du film, sera présenté en compétition au Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se tiendra en juin. C'est une nouvelle que j'espérais beaucoup. C'est un festival uniquement dédié à l'animation. Ça permet de comparer des pommes avec des pommes, affirme celui qui présente un film à Annecy pour une 3e fois. C'est mon année, je vais en profiter. Le réalisateur américain Steven Spielberg vient de dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au cours de sa carrière, un record. Comme le note le site The Wrap, le réalisateur à succès dépasse de loin la concurrence avec plus de 3 milliards de dollars d'avance sur son premier concurrent, Peter Jackson. Le site revient sur les plus grands succès de Steven Spielberg au box-office, parmi lesquels Jurassic Park, sorti en 1993, qui lui a permis d'engranger 983,8 millions de dollars à travers le monde. En 2008, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a rapporté 786,6 millions malgré la déception des fans de la franchise, alors que l'incontournable E.T., l'extraterrestre, a rapporté 713 millions. Étant donné l'avance dont dispose Spielberg sur Peter Jackson, en 2e position avec 6,5 milliards de dollars de recettes, le père de Jurassic Park n'est pas prêt de céder sa place de sitôt. Adam Sandler et Jennifer Aniston tourneront à Montréal. Les stars seront réunies dans la comédie Murder Mystery. Selon nos informations, ce film sera tourné à Montréal du début juin au début août. Une partie de l'équipe de production est installée dans les locaux du studio Mills pour préparer le tournage et construire les décors. Selon le magazine Variety, Adam Sandler et Jennifer Aniston cherchaient depuis longtemps un nouveau projet qui leur permettrait de retravailler ensemble après s'être donné la réplique dans la comédie romantique Méchant menteur, qui avait connu un beau succès en 2011. Murder Mystery racontera les péripéties d'un officier de police de New York, joué par Sandler, et de sa femme, Aniston, qui se retrouveront impliqués malgré eux dans une histoire de meurtre lors d'un voyage en Europe. Le film est produit par Netflix. Quelques semaines de tournage du film sont aussi prévues en Europe. Chronique du goût du mois, Six pieds sur terre avec Marina, fans de la scénariste Chantal Cadieux qui a créé les personnages tordus et complexes de Laurie Linda, incarnée par Sophie Paradis, et Bobby Stéphane Yann Rompré, dans Mémoire vive, réjouissons-nous. L'auteur à l'imagination la plus fertile du showbiz québécois signera un nouveau roman pour la saison 2018-2019 de Radio-Canada, avec Marina Orsini dans le rôle principal. Son titre, Une autre histoire. Comme cette série porte la griffe de Chantal Cadieux, elle renfermera beaucoup de cachotteries, des personnages au passé trouble et de nombreux mystères à élucider. Une production foisonnante de type poupée russe qui nous clouera au sofa. Toutes les semaines, je le sens. Marina Orsini campera Anémone le Duc, une thanatopractrice, comprendre une embaumeuse, de 53 ans, souffrant d'Alzheimer précoce. Cette Anémone, une femme à la fois fragile et résiliente, porte un énorme secret. Il y a 30 ans, elle s'appelait Manon, habitait à Montréal et a abandonné ses trois jeunes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle vivait de la grosse violence. Aussi, autre nouvelle, c'est malheureusement officiel, Marc Labrèche ne participera pas au prochain bye-bye de Radio-Canada, comme il se prête à l'exercice du sketch et de la perruque dans Info, sexe et mensonges. Il avait l'impression de trop se répéter. On peut le comprendre. Aussi, le contrat qui lie Marc Labrèche à Télé-Québec pour l'animation d'un grand plateau du samedi soir est d'une durée d'un an et non de deux, comme je l'avais rapporté hier. On me dit également que le mandat culturel accolé à cette nouveauté évitera les guéguerres internes pour l'obtention d'invités. Problème réglé alors. Dans son projet tout neuf, Marc Labrèche discutera de culture avec une bande d'amis festive le samedi soir, entre deux verres de vin de qualité, sans être didactique ni empesé. Le but de l'émission, donner le goût aux téléspectateurs de consommer davantage de culture en revisitant les classiques et en les replaçant dans le contexte actuel.
Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Y'a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement j'ai besoin de croire, tant de douceur et de sourire, tant de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, offres-tu encore cette façon de me regarder? Mais après dire-tu encore ces choses qui me font chavirer? Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu un peu. Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu à moi? J'ai peur tout simplement que de nous deux tu sois perdante et un beau jour te retrouver toute seule à force de trop m'aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours cette façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces choses qui me font chavirer. Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu à moi? Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu à moi?
Ce soir, l'amour est dans tes yeux, nous chantait Geoffroy.
Sujet libre, opinion, Jean-François Dumas, c'est dans la section débat de la presse où sont passés nos universitaires. Il y a rarement des fossés importants qui circonscrivent les différents types de médias. La radio, la télé, les journaux et le web s'intéressent généralement au même genre de nouvelles. C'est dans le traitement de l'information qu'on y découvre certaines nuances notables. Depuis les 5 dernières années, la presse écrite, c'est-à-dire les quotidiens et les sites web, a accru considérablement son intérêt pour les universitaires comme source d'information ou à titre de commentateur. Dans les faits, les chercheurs tels que les philosophes, les spécialistes en éthique, les sociologues ou les anthropologues ont augmenté leur poids média de 180% entre 2013 et 2017. À l'inverse, à la radio et à la télévision, la classe universitaire a perdu 19% de sa vélocité pendant la même période. Depuis 24 mois, c'est une chute moyenne de 7% par année. À ce rythme, les Luc Dupont et Donald Cucciuletta de ce monde risquent de se sentir bien seuls dans une dizaine d'années. Gardons en tête que la télévision est et demeure un média d'impact majeur pour influencer les comportements. C'est encore plus inquiétant à la veille d'une campagne électorale. Lors des élections en 2014, l'ensemble des médias québécois ont cédé 4 fois moins de place aux professeurs d'une ou l'autre de nos universités qu'ils l'avaient fait en 2003. Ajoutons aussi qu'en 2014, l'analyse a été 6 fois plus volumineuse dans notre écosystème médiatique que lors des élections de 2003. Dans les faits, notre presse accorde de moins en moins d'attention aux propos des politiciens, mais les décortique de plus en plus. En langage de hockey, on a beaucoup plus d'analyse que de jeu. C'est comme si l'antichambre à RDS analysait chaque partie du Canadien pendant 3 jours. Je sais, c'est pas mal ce que fait l'antichambre, mais bon, vous comprenez l'analogie. On a quelques beaux esprits qui peuplent nos médias, mais qu'en est-il de nos universitaires? nous ne manquons pas d'électrons libres. L'opinion, qui occupe plus de 25 % du contenu écrit et près de 90 % des médias parlés, impose une large panoplie de commentateurs et de chroniqueurs. Ce n'est pas une mince tâche de remplir chaque jour des chroniques avec une opinion soutenue, structurée et intéressante. L'universitaire n'étant pas contraint par un tel impératif peut donc avoir le recul nécessaire pour apporter des éclairages différents. Alors pourquoi les voyons-nous et les entendons-nous de moins en moins? Une piste me vient en tête pour tenter de comprendre le phénomène. Le besoin d'être intéressant et « formaté » entre guillemets pour répondre au goût de l'auditoire. Avouons-le, il faut un gros effort pour être ennuyant quand on est simplement cité dans un quotidien. À la radio et à la télé, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas en vouloir au Club des Ex, à RDI, ni à la Joute sur LCN, de miser sur des débatteurs colorés et divertissants. Les prochaines générations de chercheurs universitaires devraient être mieux sensibilisées et formées aux besoins des médias modernes. Savoir résumer 20 ans de recherche en une entrevue de 1 minute 50 n'est pas donné à tous, je comprends. Pour vous retrouver en entrevue avec Dutrisac, Dumont ou Arcan, vous n'avez pas le temps de regarder vos souliers. Pour être plus présent dans les médias, les universitaires sont condamnés à être pertinents, intéressants et surtout que les médias pensent à eux. Trois conditions qui ne sont pas à la portée de tous les chercheurs et professeurs dans un environnement où l'impératif commercial prend une aussi grande importance. Est-ce du snobisme, un nivellement par le bas, une méconnaissance ou du mépris? À leur défense, il faut aussi se demander si, comme société, nous n'avons pas besoin de diversifier davantage les points de vue et les angles de réflexion. Valorisons-nous assez nos intellectuels? Leur accordons-nous le rôle qui devrait leur revenir dans un Québec qui s'interroge autant sur l'immigration, l'intégration et le développement social? Notre démocratie y gagnerait sans doute beaucoup. Alors c'est donc l'opinion de Jean-François Dumas. Où sont passés nos universitaires? Telle est la question. Des routes de plastique contre les nids de poules. Le problème, les routes sont criblées de nids de poules et les océans sont remplis de déchets de plastique. La solution, aux Pays-Bas, une entreprise propose de construire des routes plus durables en plastique recyclé, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Idée d'ailleurs, comment ils se sont attaqués au problème. Alors, comment l'idée est-elle née? Volker Wessels est une multinationale néerlandaise de 15 000 employés qui construit des bâtiments résidentiels, des installations industrielles et des routes. Comme tout le monde, elle a noté que ces dernières se dégradaient vite et nécessitaient beaucoup d'entretien. Elle a lancé l'idée de routes de plastique recyclées qui, selon elle, pourraient être trois fois plus durables que les routes d'enrobés bitumineux, communément appelées asphalte. Les routes seraient faites d'assemblages de panneaux préfabriqués. Quels sont les avantages? D'abord, celui de contribuer à régler l'immense problème de pollution causé par les bouteilles et les autres déchets de plastique qui jonchent les sols et les océans. Volker Wessels croit ensuite que de telles routes pourraient durer jusqu'à 50 ans. Le fait qu'elles soient faites de panneaux préfabriqués permettrait une construction plus rapide, ce qui diminuerait les entraves à la circulation. Des espaces vides seraient aménagés sous les panneaux afin de pouvoir y faire circuler les tuyaux et les fils. L'entreprise souligne aussi que les panneaux seraient légers, ce qui faciliterait leur manipulation et leur transport. Y a-t-il assez de plastique pour appliquer la solution à grande échelle? Oui. Le problème des déchets de plastique touche l'ensemble de la planète. On estime que 8 milliards de kilogrammes de plastique se trouvent dans les océans et des projets pour essayer de le récupérer sont sur le point de démarrer. De telles routes ont-elles déjà été construites? Non. Volker Wessels continue de développer un prototype. Plusieurs villes, dont Rotterdam, ont offert des espaces pour tester le concept. L'entreprise cherche aussi des partenaires pour l'aider à faire avancer l'idée. Le groupe veut commencer par la construction d'une piste cyclable. Ces routes seront-elles glissantes? Il faudra s'assurer que les routes de plastique ne se transforment pas en patinoires à la moindre averse de pluie, sans compter la neige et la glace. L'entreprise affirme qu'elle vérifiera d'abord s'il y a moyen de rendre le plastique lui-même antidérapant. Sinon, elle jongle avec l'idée d'y intégrer du sable ou du gravier à la surface. Notre objectif est d'intégrer la rugosité à la route elle-même, explique Volker Wessels sur son site web. Les routes seront-elles bruyantes? Il faut attendre pour le savoir, affirme l'entreprise, qui admet qu'il est possible que les panneaux de plastique agissent comme des caisses de résonance et amplifient les bruits de la route. De notre côté, de nouvelles textures sont conçues pour réduire le bruit des routes en enrobés bitumineux, dont certaines par Volker Wessels elle-même. Or, l'entreprise affirme qu'il sera encore plus facile de les fabriquer en plastique. Avis de l'expert Alan Carter, directeur du laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux à l'École de technologie supérieure de Montréal. Au Québec, cette idée devrait être adoptée, étudiée ou rejetée. Alors, c'est étudié qui est mis en lumière. Je donne la chance aux coureurs. J'ai tendance à croire que c'est possible, mais je mets beaucoup de bémols, dit le professeur. L'expert explique qu'à la base, le plastique recyclé est loin d'être idéal pour construire des chaussées. Il devient fragile et cassant à basse température, ce qui provoque quelques inquiétudes quand on imagine les déneigeuses québécoises prenant les routes d'assaut à moins 30. À la chaleur, le plastique recyclé devient mou et peut se déformer. Ça va certainement demander une modification chimique du plastique pour obtenir des caractéristiques plus intéressantes, dit le spécialiste. Est-ce qu'au bout du compte, ce sera rentable d'un point de vue financier et environnemental? Je n'en ai aucune idée. On a peu d'informations techniques pour l'instant, mais pour moi, le nerf de la guerre est là. Sinon, le spécialiste aime beaucoup l'idée de panneaux préfabriqués qui peuvent être assemblés sur place. Cette idée gagne du terrain. On le fait déjà avec des dalles de béton de ciment, souligne-t-il. Que la dalle soit en béton ou en plastique, c'est le même principe. Installation rapide, faible perturbation de la circulation. J'aime l'idée des dalles évidées pour qu'on puisse passer des trucs à l'intérieur. En ville, ce pourrait être très utile, ajoute l'expert, qui souligne toutefois qu'il faudra trouver un moyen de changer une dalle sans devoir couper tous les fils et tuyaux qui circulent dessous. C'est tout pour le quotidien des quotidiens édition du 18 avril 2018. Un grand merci de nous avoir choisi, de nous avoir suivis aussi. Ici Hélène Denis qui vous dit à tantôt puisque j'anime les paractualités. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve demain, Maurice. À demain.